voir quelques vérités subtiles du Nouveau Testament. Des vérités subtiles du Nouveau Testament. Pourquoi subtiles? Parce que elles demandent de la réflexion et la comparaison de plusieurs passages bibliques pour être bien comprises. Et vous verrez, c'est des choses que vous connaissez, vous avez déjà entendu, au moins les versets qu'on va citer, mais les explications demandent de la réflexion. Et j'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse à la parole de Dieu. Et la première vérité, vous allez vite saisir, est-ce qu'il faut être un enfant ou est-ce qu'il faut être un adulte? Et si on regarde, par exemple, Matthieu 18, 3, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, ce verset est très fort. Il y a une interdiction d'entrée, il y a une opposition à l'entrée dans le royaume de Dieu, à ceux qui ne sont pas prêts à se convertir et à devenir comme les petits-enfants. Se convertir, c'est un mot qui veut dire changer de direction. Et même, ça veut dire aller dans la direction contraire. C'est nous allions vers la perdition, nous allions vers le péché, nous allions dans notre propre volonté. Et la conversion, c'est dire désormais, je veux suivre la volonté de Dieu. Je veux aller vers Christ, vers la vie. Je veux cesser de courir vers la mort. Ça s'appelle la conversion, c'est un demi-tour complet de celui qui se tourne vers Christ. Et puis, vous convertir et devenir comme un petit enfant. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je pense que lorsqu'il a dit ça, il y avait des petits-enfants près de lui, peut-être sur ses genoux, et qu'il était en train de parler avec eux de l'Évangile et de Dieu, parce que Jésus, pour lui, les enfants avaient une oreille spirituelle particulière, alors que dans les traditions juives de l'époque, tant que vous n'aviez pas fait votre bar mitzvah à 12 ans, on ne vous parlait pas tellement des choses spirituelles. Hein. Vous étiez un enfant, c'est tout. Il y a les enfants, et puis à 12 ans, paf, vous devenez un adulte. Là, vous faites votre bar mitzvah, vous commencez à lire la Torah et à être enseigné. Mais Jésus s'est occupé de petits-enfants en dessous de 12 ans parce qu'ils ont une oreille très attentive, ils ont une foi particulière. Et c'est ça que Jésus voulait leur dire. Les petits-enfants, ils ont une sincérité totale. Bien sûr, il y a des petits-enfants qui très tôt mentent, trichent. Les petits-enfants ne sont pas des saints. Si vous avez eu des enfants, vous le savez très bien. Mais il y a quelque chose dans la petite enfance. Et là, il parle des petits-enfants. C'est un mot en grec là, qui veut dire vraiment les tout-petits. Hein, c'est 4-7 ans. Hein. Les tout-petits, ben, ils sont entiers. Vous leur dites quelque chose, ils le croient. Si, quelquefois, on s'amuse à faire des blagues avec les petits-enfants, hein, on leur dit, tu sais, le loup va venir ce soir, il va frapper à ta porte, et ils ont peur. Alors que pour nous, c'est évident que le loup, il ne va pas venir à la porte, mais pour eux, voilà. Et ils sont très sensibles et très entiers, très authentiques, très sincères. Et c'est ça que Jésus voulait dire, c'est d'avoir l'esprit d'un petit-enfant, c'est de revenir quelque part hein, à cet esprit-là, totalement sincère devant Dieu, dire « Seigneur, voilà, je suis vraiment pécheur. » Parce que en grandissant, on se couvre de justification. Hein. On dit « Je suis pécheur, mais il y a pire que moi. Je suis pécheur, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis pécheur, mais… » etc. On se trouve des excuses. Mais l'enfant, lui, il est entier. Et redevenir comme un petit enfant pour se convertir, c'est dire « Seigneur, je suis pécheur, point. Et je suis coupable, et je suis perdu. » Et tes promesses sont vraies, Seigneur, sauve-moi. C'est ce cœur entier. Donc le Seigneur nous demande de devenir un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Mais l'apôtre Paul dit autre chose. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens 14, 20. C'est lorsque Paul parle des dons spirituels, miraculeux, langues, prophéties, etc. Il dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, c'est-à-dire des adultes. Hein. C'est un autre mot pour adulte. Si on prend 1 Corinthiens 13, juste avant versets 9 à 11, il dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Il parle là du parler en langue en particulier, hein, du don des langues et des prophéties. Verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Jusque-là, on le suit. Hein. « Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Pourquoi il donne cette image ? C'est qu'il y a les dons spirituels de l'enfance, le don des langues, le don des prophéties, les miracles en général, et puis il y a les dons spirituels de l'adulte, et là il les cite, hein, verset 13, la foi, l'espérance, l'amour, ça c'est adulte, ça c'est mûr, ça c'est l'homme. L'enfant c'est, il faut que ce soit spectaculaire, le don des langues, ouais, moi je parle une langue inconnue, ça c'est enfantin. Et il était en train de dire aux Corinthiens, vous êtes enfantins. En plus, les Corinthiens se querellaient comme des enfants dans une cour d'école. Hein. Moi, je parle en langue plus que toi, mais moi, je prophétise plus que toi. Moi, je fais des miracles plus que toi. Ce n'est pas un comportement d'un chrétien adulte. Il y a donc un moment où il faut devenir un petit enfant, c'est pour se convertir. Mais quand on est converti, le Seigneur veut qu'on devienne un adulte. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, je ne crois pas que tout de l'enfance disparaisse. Hein. Il y a toujours des choses qui restent un peu. Mais ça nous apprend quand même quelque chose. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les adolescents. Vous connaissez les adolescents ? Qu'est-ce que c'est les adolescents ? C'est un mélange d'adultes et d'adolescents. Donc, c'est des adultes qui sont restés à l'adolescence. Donc, ils ont 50, 60 ans et ils s'habillent comme les ados, comme les filles ados. Ils se maquillent, les femmes se maquillent, les hommes se comportent en adolescent. Donc, un adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de devenir adulte. Un adolescent qui se comporte en adolescent, c'est normal, puisqu'il est en train de devenir adulte. On ne peut pas lui demander tout de suite, ça y est, t'es un homme. Non, il est en train de devenir un homme et il est en train de devenir une femme adulte. Mais quand quelqu'un de 50, 60 ans reste adolescent dans sa tête et dans ses comportements, il y a un problème. Voilà. Et il y a des chrétiens qui sont spirituellement adolescents. Ils sont instables. Un coup, ils prient à fond et un coup, ils prient plus. Ils disent non, Dieu ne répond pas. Un coup, ils vont témoigner à tout le monde et un coup, ils vont se taire, on ne va plus les entendre. Ça, c'est l'adolescence. Hein. Très instable, on n'est pas encore fixé. Mais l'adulte, lui, il est fixé. Il a des convictions, il sait où il va, il avance. Il travaille pour le Seigneur. Et donc Paul dit, il y a un moment où il faut faire disparaître ce qui est de l'enfance. Lui, dans le contexte là, de 1 Corinthiens 13, c'est, il faut arrêter avec votre parler en langue et vos prophéties qui sont que de l'esbrouf. Hein, c'était du spectacle dans l'Église. Et il dit, c'est à cause des divisions, des querelles, de l'orgueil. Ce qui est important, il dit, c'est la charité. Hein, 1 Corinthiens 13, la charité, c'est-à-dire d'aimer son frère, de l'édifier, de l'encourager, ça c'est adulte. Un enfant ne cherche pas forcément l'intérêt de l'autre. Vous avez remarqué comme les enfants peuvent être égocentriques? C'est rare un enfant qui s'intéresse aux autres, c'est souvent un enfant chrétien. Mais en général, les enfants sont très égocentriques. Moi, puis on est jaloux des autres. Et il y avait des chrétiens comme ça. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens jaloux, des chrétiens en compétition, des chrétiens dans le spectacle. Il veut qu'on soit adulte. Et pour être adulte, il y a un moment, il faut dire, j'arrête mon comportement enfantin. Je deviens un adulte en Christ. Je veux ressembler au Seigneur Jésus. Jésus n'avait pas un comportement d'adolescent, il me semble. Il avait un comportement d'adulte. Hébreu nous dit la même chose et nous le confirme. Hébreu 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, au cas où vous auriez un peu de mal à comprendre ce qu'il dit ici, il dit à ses croyants, depuis le temps que vous entendez la parole, vous devriez être des maîtres de la parole et des chrétiens adultes et qui portent du fruit, qui ont une vie magnifique. Et moi, ce que je constate, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que vous en êtes encore au lait. Vous n'avez toujours pas compris les bases. Vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, vous n'êtes pas sûr de vouloir suivre Christ. Eux, à cette époque-là, dans le contexte, ils voulaient revenir aux choses de l'Ancien Testament, à la loi, au sacrifice du Temple. Un coup, ils disaient « Oui, je crois en Jésus, c'est lui le Messie. » Puis un coup, ils disaient « Oui, mais je crois aussi à Moïse. » Et ils étaient tout le temps comme ça, instables, et ils n'arrivaient pas à bâtir. Pour bâtir une vie chrétienne fructueuse, il faut avoir des bonnes bases. Un bon bâtiment a des bonnes fondations. Près de là où Philippe va à son centre, ils sont en train de construire dans toute la rue, il y a au moins 3 chantiers là. Et c'est une petite rue vraiment de vanves étroite, et il y a plein de petites maisons. Et là, ils vont faire des immeubles de 4 ou 5 étages, mais il faut voir les fondations qu'ils font. Mais ils font des trous, on se demande s'ils vont toucher le centre de la Terre bientôt. Bon, parce qu'il faut le parking, il faut les fondations, il y a plein de choses. Mais le trou est plus profond quasiment que la hauteur de l'immeuble, hein, à la fin. Eh bien, il y a vraiment là une leçon pour nous, c'est que pour faire une vie chrétienne solide et fructueuse qui bénit les autres, il faut des bonnes fondations, il faut bien démarrer. Et les bonnes fondations, c'est quand on a l'expérience de la parole de justice. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'expérience de la parole de justice? Je vous pose la question. L'avoir mise à l'épreuve, avoir vu ses fruits, avoir pratiqué ce que dit la Bible. Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire, l'auteur, là, c'est qu'il y a le chrétien qui connaît un peu la Bible, mais qui n'y obéit pas. Et il y a le chrétien qui connaît la Bible et qui l'a pratiquée, qui l'a vécue et qui a une expérience de vécu avec la Bible. Il peut dire aux autres, mais écoute, moi j'étais dans la même situation que toi et j'ai vu ce verset qui m'a encouragé et j'ai vu la réponse de Dieu. Cette personne, elle va porter du fruit parce qu'elle a vécu quelque chose avec Dieu et la Bible. L'autre qui est à côté, qui a toutes les réponses, ah tu as ce problème, la Bible dit, tu as ce problème, le verset dit, il a toutes les réponses, tous les versets, mais il n'a aucune expérience, parce qu'il n'a jamais vraiment pratiqué ça, c'est juste intellectuel. Il y en a un qui est un adulte et il y en a un qui est un enfant. Et on a besoin, on commence comme chrétien enfant à la nouvelle naissance, hein, mais après il faut devenir un adulte, et j'espère que ce verset n'est pas pour nous, hein, il n'est pas en train de nous dire... Vous devriez être des maîtres et vous êtes encore des enfants qui boivent le lait. Il faut arriver à la nourriture solide. Et la nourriture solide, ça ne veut pas dire des textes de la Bible compliqués. Quand il parle de nourriture solide, il n'est pas en train de dire « Maintenant, il va falloir que vous deveniez des étudiants en théologie. » Ce n'est pas ça qu'il veut dire. La nourriture solide, c'est justement des versets de la Bible qu'on va pratiquer dans sa vie et qui ne sont pas faciles à vivre parfois. Réjouissez-vous dans les épreuves. Est-ce que c'est facile à vivre, hein? Quand vous êtes dans l'épreuve, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas vous réjouir, hein, c'est de faire la tête. Et pourtant, la Bible le dit. Ça, c'est de la nourriture solide, parce que celui qui pratique ça, qui comprend que l'épreuve est une bénédiction et qu'il y a Dieu dans l'épreuve et que Dieu a préparé déjà le moyen d'en sortir et on peut s'en réjouir à l'avance, celui-là, il en est, c'est un adulte dans la foi. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, j'ai une épreuve! Dieu m'a abandonné. Il va pleurer, il va se victimiser, il va dire voilà, encore, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, c'est le comportement enfantin. Le comportement adulte, la nourriture solide, j'ai compris un verset là, la tentation, l'épreuve, hein, est une bénédiction, elle fortifie ma patience. C'est ça, la nourriture solide. Alors faut-il être un enfant ou un adulte? Je reviens à 1 Corinthiens 14, 20. Sous le rapport du jugement, ne soyez pas des enfants, c'est-à-dire il faut avoir du discernement, il faut être un adulte dans la foi, dans la pratique de la Bible. Mais pour le mal, soyez des enfants, dit-il. 1 Corinthiens 14, 20. C'est-à-dire tout ce qui est être vicieux, être tordu, être menteur, tout ça, nous l'acceptons pas. Nous le rejetons. Nous voulons rester enfantins de ce côté-là, c'est-à-dire purs, hein, quelque part un peu innocents. Pas innocents dans le sens stupide, mais dans le bon sens. Quelqu'un qui est sincère, entièrement sincère avec Dieu et avec les autres. On a le temps d'en voir un deuxième. Alors dites-moi ce que vous préférez. On va faire un vote. Il y en a un, c'est « Faut-il marcher par la foi ou par les œuvres ?» Donc c'est la fameuse comparaison de Romain et de Jacques. Et le troisième, c'est « Faut-il juger ou ne pas juger ?» Alors, qui vote pour la foi et les œuvres? Oula. Qui vote pour juger ou ne pas juger? D'accord, bon, il n'y a pas de discussion. On va voir juger ou ne pas juger. Alors regardons Matthieu chapitre 7 d'abord, les paroles du Seigneur Jésus, toujours pour commencer, parce que les apôtres eux-mêmes se basaient sur les paroles du Seigneur Jésus. Matthieu 7, 1 et 2. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Voilà. C'est un proverbe spirituel. La mesure, c'est ce qu'on utilisait pour les tractations au marché. Donc, une mesure de blé, c'était un récipient dans lequel on versait une mesure. Donc, vous disiez, moi, j'achète 50 mesures de blé. Alors, il vous prenait 50 mesures. Voilà. Et la mesure était normalement la même partout, chez tous les commerçants. C'était une mesure officielle. Comme le poids aussi de l'argent, hein, c'était pesé par le roi, enfin par les instances du roi, et tout devait être officiel. Mais il y avait des petits malins qui réduisaient la mesure de quelques centimètres. De loin, on aura dit que c'était la même taille. Alors vous preniez 50 mesures chez ce commerçant, en fait, vous aviez moins de grains que si vous le preniez 50 mesures chez l'autre à côté, parce qu'il avait réduit la mesure, il avait changé la taille de la mesure, ce qui était formellement interdit. Il dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand on juge les autres, on s'expose à être jugé aussi, en retour, avec la même mesure qu'on a utilisée. Parfois, justement, on est très sévère avec les autres et on est très indulgent avec soi-même. Hein, en général, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui sont très sévères avec eux-mêmes et très sévères avec les autres. Mais dans l'ensemble, on est très sévère avec les autres et indulgent avec soi. On dit, ben moi c'est spécial, moi c'est moi, toi c'est toi. Et donc, avec les autres, on va exiger, on va les juger, on va dire, mais non, comment? Et le Seigneur dit, attention, si tu commences à juger les autres, prépare-toi à ce qu'on te juge en retour. Et tu vas voir, ça va être pas mal aussi. Et souvent, on n'accepte pas, on dit, mais comment tu me juges? Oui, mais rappelle-toi, il y a une semaine, est-ce que tu n'as pas jugé toi aussi? Et le Seigneur nous avertit que juger quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement solennel. Et en fait, il n'y a que Dieu, fondamentalement, qui a le droit, qui a la justice, qui a la perfection pour juger. Il a toute la sagesse, toute la connaissance de la personne et des motivations, il a tout. Nous, quand on juge quelqu'un, on voit l'apparence, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit « ne jugez pas ». Afin que vous ne soyez pas jugés en retour. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus interdit tout jugement? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais juger qui que ce soit, jamais rien. Ah, moi je ne juge rien. Moi. Ah, lui, il a tué quelqu'un, je ne juge pas, peut-être qu'il avait ses raisons. Est-ce qu'on ne doit jamais juger? Parce que c'est ça que Jésus voulait dire? Non. Il le dit dans une circonstance particulière avec son frère dans la foi. Hein. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton... Non, justement, de ton frère. Il n'est pas le voisin, là. Donc, dans l'Église, hein, dans la fraternité chrétienne, hein, comme on est ensemble assez souvent, c'est tentant de se juger les uns les autres. Comme on cherche la sanctification, c'est tentant de se juger les uns les autres, parce qu'on dit, il faudrait que tu te sanctifies un peu plus. Mais Jésus dit, attention, juger quelqu'un, c'est extrêmement délicat. C'est comme retirer une paille qui est dans l'œil, hein. Franchement, retirer une paille dans l'œil, il faut appeler un chirurgien, il faut appeler un ophtalmo, hein, il ne faut pas le faire tout seul. Et il dit, si tu peux bien enlever une paille dans un œil de quelqu'un, alors tu seras apte à juger. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de doux, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui va aider la personne, oui, mais si tu arrives avec tes gros sabots en disant, toi tu es un mauvais chrétien, toi tu ne fais pas ce qu'il faut, Là, il vaut mieux t'abstenir de juger. Parce que là, c'est juger dans le sens catégoriser quelqu'un. Par exemple, un chrétien qui, une fois, je ne sais pas, va au cinéma ou regarde un film, il dit « Ouais, j'ai regardé un film. » Et un autre chrétien le regarde, il dit « Ah voilà, ça c'est un chrétien charnel et mondain. » Il va au cinéma, il regarde les films, c'est mondain, c'est charnel. Voilà. Donc on catégorise, on juge quelqu'un parce qu'il a fait une chose. Jésus dit « Ne faites pas ça. » Parce qu'on va vous juger. Vous aussi, vous êtes mondain et charnel dans ce cas-là, dans d'autres domaines, peut-être pas le cinéma, mais il y a d'autres choses. Donc c'est facile de caractériser quelqu'un et Dieu ne le veut pas. Il veut qu'on ait toujours, on laisse toujours une chance au pardon, à la repentance et à l'avancement de la personne. Si je vois mon frère ou ma sœur qui commet un péché, je ne vais pas le juger, je vais l'aider. Si vous prenez Galates chapitre 6, nous lisons ceci au verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, jugez-le et condamnez-le. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà. Redressez-le avec un esprit de douceur. Et c'est le mot qu'on utilisait pour redresser un os cassé. Hein. Pour mettre en place un os cassé, il faut beaucoup de douceur et d'habileté pour mettre un os en place. Donc, voilà comment on doit faire. On ne doit pas juger, on doit redresser, on doit prier, on doit encourager le frère en faute. Parce que le juger, ça va le casser et c'est tout. Ça va l'encourager même presque. Il va dire, de toute façon, les autres me jugent. Alors que si vous dites, mais tu sais, ça me fait de la peine de te voir dans le péché comme ça, il faut que tu arrêtes, il faut que tu t'en sortes. Là, vous relevez la personne, vous lui donnez envie de s'en sortir. Un espoir de se repentir et d'être pardonné. Mais si vous le jugez, vous dites, toi, de toute façon, tu es un mauvais chrétien, ou toi, tu es ceci, toi, tu es cela, la personne, vous l'enfermez dans son péché, dans sa culpabilité. Vous comprenez? Paul dit la même chose que Jésus en Romains 2, et c'est à souligner, Romains 2, 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà. En jugeant, comme on dit quelqu'un, hein, en pointant un doigt, vous en avez trois qui pointent vers vous. Paul continue en Romains 14 parce qu'il était très critiqué par ses frères de Judée pour son ministère. On le traitait de traître, d'imposteur, de démon, de tout. Comme le Seigneur Jésus qu'il suivait, il a été traité de tous les noms et très, très critiqué dans son ministère. Encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de mouvements juifs qui écrivent des livres sur l'apôtre Paul en disant « c'est un scélérat, c'est un traître » et il y a des juifs qui disent « Moi, j'aime bien les évangiles, mais ne me parlez pas des épîtres de Paul. » Voilà, parce que pour eux, c'est le pire, le summum de la traîtrise. Et donc, il vivait ça, lui, de son vivant. Et dans le chapitre 14, il parle justement des jugements entre frères et sœurs. Verset 4. « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc, il y avait des jugements sur des questions de nourriture dans l'Église entre les juifs, les non-juifs, etc. Et Paul dit, arrêtez de vous juger les uns les autres. Il y en a qui disent, oh, ils mangent du porc. L'autre dit, oh, ils boivent du vin. Oh, ils mangent dans les... Ils prennent de la viande consacrée aux idoles. Il dit, arrêtez de vous juger pour des choses comme ça. Tu juges le serviteur de Dieu, là. Ton frère est un serviteur de Dieu. Arrête de le juger. Et puis, verset 10. Pour toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et là, il parle des chrétiens. Les chrétiens vont comparaître devant le tribunal de Dieu, de Christ, et nous serons jugés sur nos œuvres faites après la conversion. Vous comprenez? Tout ce qu'on aura fait après la conversion sera jugé au tribunal de Christ. Et tout ce qui sera de la paille et du foin, c'est-à-dire des choses vaines, des choses mondaines, des choses futiles, sera brûlé. Tout ce qui sera fait dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, restera pour l'éternité. Et nous recevrons des récompenses pour cela. Ceux qui n'auront pas vécu pour le Seigneur, beaucoup, n'auront pas de récompense, mais ils seront sauvés, dit la Bible. C'est 1 Corinthiens 3 qui le précise. Hein. On ne perd pas son salut au tribunal de Christ, ce n'est pas possible, on est sauvé pour toujours. Par contre, on perd ses récompenses si on n'a pas vécu pour le Seigneur. Ça doit quand même nous donner envie de servir le Seigneur. Même si on ne fait pas les choses seulement pour des récompenses ou pour éviter une punition, il y a une justice, c'est-à-dire un chrétien qui a été sauvé, qui a reçu le Saint-Esprit et qui a fait n'importe quoi, il aura un jugement. Au tribunal de Christ, le Seigneur lui dit, tu as fait n'importe quoi. Tu n'as pas utilisé le talent que je t'ai donné, tu n'as pas été fidèle. Et je pense qu'il y aura un jour, un moment de honte pour ce chrétien. Et pour le chrétien qui sera mort pour sa foi, qui aura prié, qui aura persévéré, qui aura renoncé à certaines choses pour le Seigneur, et qu'on a peut-être méprisé parce qu'il n'était pas quelqu'un en avant, il n'était pas pasteur ou missionnaire, c'était juste un chrétien dans son coin qui faisait la volonté de Dieu, celui-là sera récompensé de beaucoup de couronnes et on va dire, ah bon, lui, oui, lui ou elle, il a été fidèle. Voilà. Et ce n'est pas les pasteurs, les missionnaires qui auront les plus de couronnes. Il hein? ne faut pas se tromper là-dessus. C'est ceux qui sont fidèles. Et donc, on doit faire attention à la façon dont on juge son frère ou sa sœur. On ne juge pas. Christ va juger les chrétiens. Mais alors, s'il y a un problème dans l'Église, s'il y a un chrétien qui vit dans le péché, qu'est-ce qu'on doit faire? J'en ai déjà parlé avec Galate, mais on va voir encore 1 Corinthiens 5 et on va terminer avec ça. 1 Corinthiens 5. Versets 11 à 13. Que faire quand un chrétien vit dans le péché? Est-ce qu'il faut le laisser comme ça? 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Alors là, il parle de juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc il y a un jugement à pratiquer dans l'Église. Lorsque quelqu'un qui s'appelle frère, en fait, à mon avis, c'est un faux frère, là. Hein, s'il vit dans la débauche comme ça, bon. Ouais. Mais quelqu'un qui dit, mais moi je suis votre frère, je suis un chrétien, je porte le nom de Jésus, j'ai été baptisé, tout ça, et il vit complètement dans la débauche et il est en train d'infecter d'autres chrétiens par son comportement, son style de vie, ses paroles, etc. Il y a un moment où il faut l'avertir d'abord, il faut essayer de le redresser comme on a vu, et s'il persiste, s'il refuse toute remarque ou toute correction, il y a un moment où il faut lui dire, nous arrêtons nos relations avec toi. Ça s'appelle l'excommunication, hein. Ça s'appelle l'Église, lorsque l'Église discipline un chrétien, enfin, quelqu'un qui se dit chrétien et qui est dans la débauche. Oui. Voilà. Matthieu 18, où Jésus donne ce qu'il faut faire quand ton frère a péché contre toi. Alors là, c'est un peu plus précis avec, dans la question de Jésus, s'il a péché contre toi, mais c'est quand même la même démarche. Tu vas d'abord lui parler dans le but de réconcilier les choses. S'il ne t'écoute pas, tu vas parler avec d'autres frères témoins. Et s'il ne les écoute pas, tu le dis à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, tu le prends comme un païen et un publicain, c'est-à-dire tu coupes, tu dis tu n'es plus un frère. Ça s'appelle l'excommunication. Dans le Nouveau Testament, lorsque on excommunie quelqu'un, on appelle ça le livrer au diable. Hein. C'était assez fort comme expression. Ça veut dire tu es en dehors de l'église, tu es en dehors du royaume de Dieu, tu es dans le royaume du diable. Et le but, c'était que cette personne soit tellement choquée et éprouvée par cette mise à l'écart qu'elle revienne. Alors, il ne faut pas confondre avec ce qui se passe dans certaines sectes. Par exemple, pour ne pas les citer, la secte des Témoins de Jéhovah, si vous vous mettez en désaccord avec eux, si vous dites je quitte les Témoins de Jéhovah, vous êtes déclaré apostat et personne ne doit avoir de relation avec vous, plus jamais, même pas votre famille. Donc il y a des gens qui ne sont plus témoins de Jéhovah, ils n'ont plus revu leurs parents ou leurs conjoints depuis 20 ans, parce qu'eux sont restés dans les témoins de Jéhovah et on leur a dit, vous n'allez plus le revoir, c'est un apostat. Voilà. Ça fait quoi comme effet? Ça vous dégoûte et ça fait du mal, ça fait souffrir pour rien. C'est pas ça que Dieu demande ici. Il dit, le but, c'est de lui bien lui montrer qu'il n'est pas un frère ou une sœur. Tu n'as rien à faire avec des chrétiens. Tu n'as pas à t'appeler chrétien en vivant comme tu vis. Et si tu veux t'appeler chrétien, il va falloir te repentir et changer de conduite. Et c'est ça le but de la discipline et du jugement là, dans l'Église. C'est de convaincre de pécher la personne, de lui dire, écoute, on ne va pas se mentir là. Tu n'es pas du tout dans la foi chrétienne. Il n'y a rien de chrétien chez toi. Alors c'est vraiment des cas quand même assez spectaculaires. Hein. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans une église. Enfin, je sais pas, on ne sait même pas pourquoi il y est, si c'est par intérêt, pour voilà. Mais c'est quelqu'un qui vit profondément dans la débauche hein, et l'idolâtrie, ivrogne, invétéré, etc. Oui. Je pense que c'est humain de ne pas reconnaître ses erreurs. Hein. Enfin, on ne veuille. Le chrétien peut effectivement développer cet endurcissement de ne jamais reconnaître d'erreurs ou jamais se remettre en question. Et pourtant. La Bible, hein, la parole de Dieu, le Saint-Esprit font tout pour nous remettre en question. Mais justement, quand on ne lit plus la Bible ou quand on ne prie plus, on ne laisse plus le Seigneur nous interpeller et donc on s'endurcit tout seul. Et après, c'est très dur, effectivement, d'avoir un cœur tendre. C'est pas impossible, puisque dans la Bible, il y a des exemples de cœurs de pierre qui sont devenus des cœurs de chair. Il faut prier pour ça, mais c'est quand même compliqué. Il vaut mieux avoir le cœur d'un petit enfant, si on revient au début. Qui va avouer son crime, hein, oui, c'est vrai, j'ai péché, que d'être justement tortueux et de trouver toujours des excuses à ses péchés. Dieu aime le cœur contrit et brisé, dit la Bible, celui qui se repent. Dieu est contre les orgueilleux, justement, qui refusent hein, de se repentir. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et nous aide à la pratiquer, à devenir des adultes dans la foi. On termine par un mot de prière. Notre Père, nous nous remettons à toi. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui juge les pensées du cœur, qui nous empêche de nous endurcir, justement, de nous enorgueillir, qui nous montre le chemin à suivre. Merci pour toutes tes indications. Seigneur, fais de nous des chrétiens mûrs, des hommes et des femmes faits, adultes, qui portent du fruit. Vraiment, aide-nous à quitter l'enfance, à quitter. L'égoïsme, l'égocentrisme, la colère, la jalousie, et à entrer dans la charité et dans l'édification des autres. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen.